Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on décrypte un document vraiment fascinant. Le chapitre 6 des directives Tip for Kids, c'est un manuel sur la pratique tenant compte des traumatismes.
Bonjour. C'est un texte incontournable, oui. Surtout pour les enseignants, les parents ou les travailleurs de jeunesse.
Exactement. Et je suis ravie d'en discuter aujourd'hui parce que notre mission, là, c'est de découvrir comment concrètement, en tant qu'adulte, on peut désamorcer ces fameuses crises psychologiques.
Et surtout transformer des moments de panique totale en vrais espaces de sécurité. Je suis prêt à plonger là-dedans.
Super. Alors pour commencer, il y a cette analogie dans nos sources qui m'a vraiment marquée. Imaginez un détecteur de fumée ultra sensible qui se met à hurler juste à cause d'une tartine un peu trop grillée.
Ah oui, c'est une excellente image. Le bruit est assourdissant, la panique est bien là, même si, au final, il n'y a pas la moindre flamme.
Voilà, et c'est exactement ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant traumatisé face à un stimulus super anodin, un bruit fort ou un changement de routine, et bam, l'alarme se déclenche.
Le vrai danger dans ces moments-là, en fait, c'est la réaction de l'adulte. Face à cette alarme inattendue, on a souvent le réflexe de s'agiter, non? De montrer de la frustration?
C'est clair, on stresse, on s'énerve parfois sans le vouloir.
Sauf que l'enfant, lui, il utilise l'adulte comme un miroir émotionnel. Si son détecteur interne hurle et qu'il voit la personne censée le protéger s'affoler à son tour, son cerveau tire une conclusion très logique.
Il se dit qu'il y a un véritable incendie, c'est ça?
Exactement. La menace est avérée. C'est pour ça que ces moments sont si volatiles. La mécanique neurologique derrière ça est fascinante. Sous l'effet du stress, le cortex préfrontal, donc la zone de la logique,
se déconnecte complètement.
Tout à fait. C'est littéralement une déconnexion. Donc ça ne sert absolument à rien de faire de longs discours rassurants. Le cerveau n'est physiologiquement plus capable de traiter un langage complexe.
Le langage devient juste un bruit de fond menaçant, quoi.
C'est ça. Pour contourner ça, il faut réduire la communication à sa plus simple expression. Des directives de 2 ou 3 mots, avec un ton très posé. Genre « viens ici » ou « assieds-toi ».
D'accord, juste des mots basiques. Et l'étape d'après, c'était d'offrir des petits choix, non?
Oui, réintroduire des micro-choix. Proposer de l'eau ou du jus de fruits, par exemple. Ça ne sert pas à hydrater l'enfant, ça sert à court-circuiter son sentiment d'impuissance.
C'est brillant. On force doucement le cerveau à sortir du mode survie pour repasser en mode prise de décision.
Voilà, on restaure un minimum de contrôle.
Et vu que la logique est bloquée, ce retour au contrôle doit passer par le corps. J'ai adoré l'aspect ludique recommandé par la source, comme le jeu du dragon endormi pour les tout-petits.
Ah oui, où on place une peluche sur le ventre pour inciter à la respiration ventrale. C'est pas juste un petit jeu innocent, hein?
C'est ce que j'allais dire, c'est de la mécanique neurologique pure, non?
Totalement. Le nerf vague est directement stimulé par cette respiration. Ça envoie le signal d'activer le système parasympathique, le frein physiologique de l'organisme. L'amygdale est mécaniquement contrainte de ralentir.
D'où l'importance des objets d'ancrage aussi. Tenir une pierre lisse ou froide, ça stoppe cette espèce d'hypervigilance.
Oui, l'hypervigilance qui force le regard à scanner la pièce, elle est physiquement interrompue par cette sensation tactile. Le cerveau est ramené de force dans le présent.
C'est puissant. Mais une fois que l'amygdale se calme et que l'épuisement s'installe, il reste quand même des émotions complexes. L'analyse propose des canaux comme le dessin ou les marionnettes pour éviter de forcer la verbalisation. Par contre, il y a un truc qui m'a rendu un peu sceptique.
Ah, dites-moi.
Le manuel insiste lourdement sur le fait de retourner à la routine habituelle le plus vite possible. Il n'y a pas un énorme risque de faire comme si de rien n'était, en mode « retourne travailler et tais-toi ».
C'est un piège très commun de l'interpréter comme ça. L'objectif, ce n'est pas le déni, c'est la restauration de la prévisibilité.
D'accord, parce que le traumatisme crée une perte brutale de repères.
C'est exactement ça. Revenir au programme, savoir avec certitude qu'après les mathématiques, y aura la récréation, c'est ce qui rebâtit le sentiment de sécurité. On force pas la discussion, on valide juste les efforts d'adaptation de l'enfant.
Et le document précise qu'il est impératif que les adultes eux-mêmes aient des espaces de décharge émotionnelle après coup.
C'est vital. Absorber cette intensité, ça mène directement au traumatisme secondaire si c'est pas traité.
Donc, si on résume, une présence calme, des techniques sensorielles et le maintien d'une routine stricte.
Une approche qui neutralise le corps d'abord pour ensuite apaiser l'esprit.
Ça laisse matière à réflexion pour ceux qui nous écoutent. Si ces simples techniques d'ancrage peuvent interrompre des crises liées à des traumatismes profonds, on peut se demander à quel point notre société moderne tout entière changerait si chaque adulte appliquait ces mêmes mécanismes face à notre propre surcharge d'informations et au stress quotidien.